Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, bonjour à tous. Nous allons ouvrir, si vous le voulez bien, notre Bible. Et je vous invite à tourner quelques pages de notre Bible. Alors le sujet de ce matin, c'est un grand classique. Question que chaque homme, chaque femme qui vient sur cette terre probablement se pose. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où est-ce que je vais? Alors on va regarder cela de plus près et je vous propose que nous fassions trois lectures. Elles vont jalonner notre méditation. La première, je vous la propose dans le psaume 139. Alors c'est vraiment le psaume prédestiné, vous allez le comprendre. Le psaume 139 et le verset 13. Ce psaume est très intéressant. Il est de David, qui n'a pas, en effet, passé outre à se poser cette question essentielle, fondamentale. D'où est-ce que nous venons? Psaume 139, verset 13. Il s'adresse à Dieu, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi, je m'éveille. Je voudrais vous parler de cet éveil successif qui caractérise la créature humaine que nous sommes. On y reviendra. La deuxième lecture, nous allons la faire dans l'Évangile de Jean. Alors, Évangile de Jean, au chapitre 3, et là c'est aussi un texte de référence sur la question des mystères de la vie. Jean 3, chapitre 3, donc verset 3. Jésus répondit à Nicodème. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est naturel, eh bien, reste naturel, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Mais comment cela peut-il se faire ?» Une troisième lecture qui va clôturer, eh bien, ce petit tour d'horizon. Voilà, dans Corinthiens chapitre 15, 1 Corinthiens chapitre 15, et nous avons devant nos yeux la réponse à tout cela. Enfin, une partie de la réponse, nous y apporterons un commentaire pour la compréhension. Alors, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42. Il en est ainsi de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est sommé infirme, il ressuscite plein de force. Il est sommé corps naturel, charnel, terrestre. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Il en est de même, nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Voilà. Il y a, à l'école, nous l'avons appris en mathématiques, la règle de 3. Vous en souvenez? Vous sauriez encore faire une règle de 3? Il y a avant la naissance, il y a l'existence terrestre, et il y a l'après-vie, enfin ce que nous appelons la vie. Parce que nous sommes dans la réalité de la Terre. Et puis, on pourrait le décliner de cette manière, à l'inverse du processus de la nature, qui fait que nous passons de la vie à la mort. Mais nous voyons que le processus est inversé, c'est le contraire. Nous passons de la mort à la vie, parce que il y a là quelque chose qui est étonnant, c'est que nous sommes appelés, après la mort, à vivre. Et ça s'appelle réellement la vie. Alors que pour le commun des mortels, après la vie, c'est la mort. Il n'en est rien dans le principe spirituel. C'est pourquoi nous avons pris, étape après étape, ce principe de ce que j'ai appelé la règle de 3. Je voudrais simplement faire un rappel, et qui est tout à fait dans nos mémoires, en tous les cas dans notre connaissance humaine, je voudrais vous parler de ces trois dimensions qui régissent finalement ce que nous connaissons comme étant notre environnement dans ce monde matériel. Donc c'est toujours le même principe de la règle de 3. Je voudrais vous le rappeler. L'homme vit dans la matière, dans le temps et dans l'espace. Trois dimensions. Matière, temps et espace. La matière s'établit en trois éléments. Le solide, le liquide et le gazeux. D'accord? Ensuite, lorsque nous faisons un peu de géographie, même spatiale, il y a les continents. La Terre, il y a les océans, l'eau, et il y a l'atmosphère. Le temps, le nôtre, se décompose en passé, présent et avenir. L'espace s'exprime par la ligne, par la surface et le volume. Le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. C'est notre environnement. Et les espèces se répartissent en végétaux, en animaux, et il y a l'humanité. La trinité humaine comprend le corps, l'âme et l'esprit. Les manifestations d'origine humaine s'expriment par la pensée, la parole et l'action. La famille complète est représentée par le père, la mère et l'enfant. Dans la Bible, l'Évangile est révélé les trois personnes de la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui composent une unité parfaite. Une parole de sagesse, une observation, tout ce que nous pouvons connaître à travers d'autres déclinaisons tripartites, tripartite, ça veut dire trois, en trois parties. D'accord? Simplement, une citation d'un écrivain antique, qui s'appelle Épictète, qui dit ceci: Dieu a donné à l'homme l'oreille droite, l'oreille gauche, et une bouche, pour qu'il puisse entendre deux fois plus qu'il ne parle. C'est bien dit, hein? À cela, j'ajouterai cette parole sous la plume de l'apôtre Paul dans Romains, chapitre 1er, quand il dit ceci: les perfections invisibles de Dieu. Ce que nous venons de dire là, en quelque sorte, cette règle de trois. Donc, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu quand on les considère dans ses ouvrages. Merci Seigneur de ce que tu nous as donné cette belle parole de David dans le psaume 139. Merci Seigneur de ce que tu as dit à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau. Et merci Seigneur de ce que tu as fait écrire sous l'inspiration du Saint-Esprit à l'apôtre Paul, que nous avions une destination qui était d'éternité et céleste. Merci Seigneur pour la règle de trois. Merci pour tout cela, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important sur lequel, eh bien, nous allons maintenant, eh bien là, évoluer, réfléchir et observer les perfections invisibles de Dieu et peut-être nous réconforter les uns et les autres, parce que nous sommes des croyants. Plus encore, nous sommes des chrétiens. Davantage, nous sommes le disciple de Jésus-Christ et nous sommes au pied du Maître pour entendre ce qu'il a à nous dire, pour que jamais, au grand jamais, nous ne désespérions de ce pourquoi Dieu nous a fait. La vocation qu'il nous a donnée, la carrière dans laquelle il nous a lancés. Parce que il y a quelque chose de merveilleux à connaître le Seigneur et à connaître ses plans et à connaître, nous pourrions dire, son génie créateur, et d'autant plus son génie rédempteur. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, nous allons passer l'éternité avec lui. Et nous allons découvrir des choses magnifiques. Déjà la terre, l'univers, le firmament, le jour, la nuit, les saisons, tout ce que nous sommes en tant qu'hommes, dans notre corps, dans ce que nous avons comme capacité de faire des choses extraordinaires en bien et en mal, en bien, prioritairement, naturellement, jamais en mal. Alors à ce moment-là, nous pouvons nous incliner devant sa majesté divine et nous pouvons dire: « Mais Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, non pas par moi-même, mais en raison de ce que toi tu es. Parce que tu ne m'as pas abandonné sur le chemin. Nous ne sommes pas des avortons dans le sein maternel. Nous ne sommes pas des vies ou des existences sur cette terre ratées. Mais nous sommes appelés à rentrer dans une dimension insoupçonnée qui est le ciel dans la présence de Dieu. Alors Seigneur, que ton nom soit béni. Et vous savez, après avoir entendu et ce que nous entendons chaque dimanche et ce que nous entendons, ce que nous allons entendre encore ce matin, nous ne pouvons que nous incliner devant le Seigneur pour le bénir et le louer et que personne ne reste la bouche fermée. C'est trois dimensions. La première phase. Mon corps n'était pas caché devant toi. J'ai été tissé dans les profondeurs de la terre parce que je suis un homme, je suis né de la poussière, je suis issu de la poussière. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, le ventre de ma mère. Dieu l'a voulu ainsi. Quand j'étais une masse informe, vous avez déjà regardé des échographies? Tes yeux me voyaient. Ouais, je ne suis pas ignoré de Dieu, même avant. Et sur ton livre, figurez-vous que le Seigneur a un grand livre. Et sur ton livre, le livre de la vie, eh bien, sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient échus, les jours qui m'étaient destinés. Vous ne le savez pas, je ne le sais pas, mais le Seigneur le sait. Alors ne vous inquiétez rien, ne vous inquiétez de rien. Connaissez l'histoire des cheveux, hein, qui ne tombent que quand le Dieu le permet, d'accord? Alors, ne vous inquiétez pas. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, puisque tout est déjà fait. Vous allez me dire, c'est du fatalisme. Non, non, c'est pas du fatalisme, vous allez voir. Alors, ces jours, ils sont déjà inscrits, avant qu'aucun d'eux existe. Et ça, Seigneur, je ne peux que fléchir le genou devant ta majesté divine. Parce que, moi je ne sais rien, mais toi tu sais tout. Et de savoir que tu sais tout, ça me suffit. Et de savoir que ça me suffit, ça s'appelle comment ? La foi ? Un abandon entier entre tes mains, puisque tout est renfermé entre un commencement et un commencement, et il n'y aura pas de fin. Alors, on s'aperçoit que c'est en formation, c'est une formation dans le sein maternel. Voilà comment nous avons commencé. À moins que vous soyez comme Jupiter et que vous soyez descendu du ciel directement. J'aimerais bien avoir une petite conversation avec vous, hein. Oui. Alors, vous savez que l'amour, nous croyons que la naissance d'un enfant ou que la venue d'un enfant, c'est le fruit de l'amour entre un homme et une femme, entre un père et une mère. Ah, nous sommes dans une société, puis la société humaine a souvent été comme ça, c'est qu'il a été fait des enfants sans amour, hein. Pire encore. C'est terrible. Mais ça, on sait qui est l'auteur de tout ça. En tous les cas, ce n'est pas Dieu. Oui. Un enfant, c'est le produit de l'amour de deux êtres qui s'aiment et qui vont donner la vie. Il y a une mère, naturellement. Oui, il y a une mère. Et ce stade-là, c'est le stade de l'inconscience totale. Est-ce que quelqu'un se souvient comment ça s'est passé dans le centre, dans le ventre de sa mère? On a bien des photos, des échographies, ou de la maman, tout simplement. Mais comment ça s'est passé? On ne sait pas. C'est un stade d'inconscience. On ne sait pas comment ça s'est passé. Et pourtant, nous sommes là. Eh oui, nous sommes là. Il n'y a aucun souvenir, figurez-vous. Et on appelle ça, naturellement, l'embryon. L'embryon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une vie qui dure 9 mois dans le principe naturel. Et puis il y a un bébé qui vient. Voilà. Il y a un bébé. Alors cet embryon, eh bien, je voudrais vous en parler un petit peu, ou plutôt nous allons laisser parler. Ah oui, c'est curieux ça. Hein, je vous dis des choses étranges aujourd'hui. Hein. C'est bizarre. Alors l'embryon, eh bien, nous dit qu'il y a une vie après le sein maternel. C'est lui qui nous le dit. Nous, quand on était embryon, on ne savait pas, hein. On ne savait pas. C'est vrai que l'athéisme et l'incrédulité voient les réalités d'une autre vie. Et pourtant, il y a une autre vie après le stade embryonnaire. Autrement, on ne serait pas là, hein. Ça, c'est clair. Et figurez-vous que si l'on questionnait un embryon, que dirait-il? Alors, écoutez bien. Il dirait, j'ai deux yeux. Où deux yeux se forment dans ma tête. Pourquoi? Et lui-même de répondre, mais ici, là où je suis, dans le ventre de ma mère, il n'y a rien à voir. Alors à quoi ça sert d'avoir des yeux? Et puis, il poursuit, il dit, mais je m'aperçois que j'ai des jambes qui grandissent. Il ne sait pas que c'est des jambes, mais enfin nous on l'a traduit. Hein. Mes jambes grandissent, mais là où je suis, je ne peux pas marcher. Alors pourquoi? À quoi ça sert? Pourquoi ces jambes? Il dit, mais j'ai deux bras et deux mains qui se développent autour de moi. Mais pourquoi faire? Parce que je ne peux même pas les étirer, ces bras. C'est tellement petit à l'intérieur. Et mes mains, ça sert à quoi? Naturellement. Et il s'interroge et il se dit, mais alors, tout cet attirail me gêne, et gêne aussi ma maman, parce que tout est rétréci, hein. On est dans une petite enveloppe, on baigne dans je ne sais quoi, et il se pose la question, vous savez que dans la vie humaine, on se pose la question, pourquoi de ceci, pourquoi de ça, parce que notre vie, c'est que des pourquoi. Hein. Mais le pourquoi que nous nous posons, on va avoir une réponse. Parce que ça va servir à quelque chose. Comme l'embryon se dit, moi, pourquoi mes mains, pourquoi mes jambes, pourquoi mes yeux, pourquoi mes oreilles, pourquoi ceci et cela? Il paraît que les bébés, les embryons, ils entendent la musique, hein. Voilà. Enfin bon, c'est pas notre rôle d'expliquer tout ça. Alors, pourquoi cette croissance de ces organes et de ces membres dans le ventre de ma mère? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Ça semble tellement absurde. Ben oui. À moins que, je dis bien, à moins que je ne sois fait pour une autre vie. Mais l'embryon ne le sait pas. La maman le sait. Elle y est passée. Elle est en train de concevoir. Elle va bientôt enfanter. Et c'est une catastrophe si on vient lui dire, mais voilà, selon l'échographie, on s'aperçoit que votre enfant n'a pas de jambes, il n'a pas de bras, il n'a pas de... Alors là, c'est vraiment terrible. Mais lui, c'est absurde tout ça. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre après. Parce qu'après, il y a de la pleine lumière. Il y a cette pleine lumière que mes yeux verront. Il y aura plein d'espace où mes jambes et mes bras et mes mains s'ébattront. Il y aura un nouveau monde qui va venir, qui me donnera une nouvelle dimension de liberté. Et là, après avoir été confiné, après avoir été dans le resserrement, l'étroitesse, le monde est à moi. Vous avez vu un bébé quand il naît? Waouh! Il crie! Eh! Après, vous le verrez courir, hein. Vous aurez peut-être du mal à le rattraper à un moment donné. Mais il va rentrer dans un nouveau monde! Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. La liberté! Voilà, aujourd'hui, je suis encore un petit embryon, insignifiant. Et je ne sais pas pourquoi je suis là dans ce confinement et dans l'étroitesse. Mais pourtant, je ne le sais pas encore. Mais une autre vie m'attend. Dans cette première existence, une autre vie m'attend, celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et je me prépare à y rentrer. Et je suis bientôt prêt à vivre dans un corps sur la terre. Et quelle aventure! Quelle aventure! Une aventure merveilleuse, qui peut être merveilleuse, ouais, qui peut être assurément merveilleuse. La deuxième phase, après avoir dit tout cela, c'est la vie terrestre, que l'on appelle l'incarnation. Embryon, ça commence à se mettre en place, et vous savez, on peut dire, Seigneur, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse, parce que quand on voit la conception, quand on voit la formation, et que l'on a cette petite créature qui arrive, garçon ou fille, parce que c'est quand même vraiment merveilleux un bébé. N'est-ce pas? Ça va, Marine? Tu suis? Waouh, là là, c'est extraordinaire. Moi, je suis admiratif d'un enfant. Ouais, c'est beau, hein. On devrait tous aimer les enfants, vous savez. Je comprends pas qu'on ne les aime pas, hein. C'est beau. Mesdames, vous ne direz pas le contraire, quand même, hein. Alors, l'incarnation. Voilà pourquoi je suis fait, pourquoi j'avais des bras que je comprenais pas, pourquoi j'avais des yeux, pourquoi j'avais des oreilles, et puis tout le reste, hein. L'extérieur et l'intérieur, hein. L'incarnation, voilà. Jésus nous dit ceci. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son temps, son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie, du bonheur, de cette chose qui est unique dans l'existence humaine, de la joie de ce qu'un homme est entré dans le monde. Il est venu. Au stade primaire, on ne sait rien, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi les choses sont ainsi. Voilà, nous sommes dans le stade secondaire. Deuxième partie de l'histoire de la vendure. Une créature si merveilleuse Et pourtant Paul dira dans une de ses épîtres que cette vie-là, dans un corps, c'est aussi un corps d'humiliation. Ouais. Et il dira dans un soupir, il dira, mais j'aspire, et je paraphrase, j'aspire à être délivré de ce corps pour rentrer dans une autre dimension où le corps sera tout autre. Plus de migraines, plus d'hémorroïdes, plus de maux de tête. Le mal dedans, les dentistes et les médecins auront complètement disparu. Vous comprenez? C'est un corps d'humiliation. Et nous souffrons dans ce corps. Et parce que nous souffrons dans ce corps, nous nous posons pourquoi nous souffrons? Pourquoi la question? Pourquoi il y a ceci, cela? Pourquoi il y a des injustices? Pourquoi il y a ceci, cela? Alors, c'est Paul qui parle ainsi. L'embryon, sans être conscient, aspire à rentrer dans un autre état. Nous, nous aspirons à rentrer dans un autre état, ou alors faut avoir rien compris. On n'est pas né pour la terre, frères et sœurs, on est né pour le ciel. Et notre corps, c'est tout simplement une enveloppe qui renferme comme une sorte de prison, plus ou moins, en effet, en bonne santé, et qui fait que un jour, l'enveloppe va disparaître et nous allons rentrer dans une autre vie. Ouais, la mort, c'est un accouchement. Hein, c'est vrai que c'est quelquefois douloureux, mais ça fait partie du processus que Dieu n'aurait pas voulu ainsi, vous comprenez? Parce que la première parole, quand Ève va mettre son enfant et Dieu va lui promettre, ta grossesse et ton enfantement sera fait dans la douleur. Et notre venue sur la terre se fait autant pour la maman que pour l'enfant dans la douleur. Et lorsque nous partirons, eh bien, il y a aussi quelque part quelque chose d'inévitable qui est aussi malheureusement ce que nous craignons, c'est de partir dans la douleur. J'espère que Dieu va nous faire grâce et que nous allons pouvoir nous endormir du sommeil du juste dans la paix, dans ce bonheur de l'autre dimension. Mais tu es capable de nous le donner si nous le croyons. Mais faut le demander. Ouais. Alors, ce monde-là, c'est celui de la conscience. Autant nous étions dans la conscience lorsque nous étions dans la dimension de l'embryon. Nous sommes conscients. Nous ne sommes pas conscients de tout, mais nous sommes conscients de beaucoup de choses, de notre environnement en tous les cas, parce que Dieu nous a fait des sens. Il y en a 5, vous comprenez? Et ce qui nous rend conscients, qui nous donne d'être de plein pied, finalement, et bien dans le monde dans lequel nous vivons. Et puis, nous sommes des êtres conscients, mais nous sommes des êtres responsables du choix que nous faisons. Et nous sommes dans un monde qui est une école, qui est une préparation, où nous sommes confrontés en raison de ce que Dieu a voulu que nous soyons des créatures libres. À cause du libre arbitre de chacun, nous puissions choisir le bien et le mal. Et dans ce monde, il y a le bien et le mal. C'est inévitable, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Et nous sommes des êtres responsables du choix. Et c'est une existence qui est soumise à différentes étapes qui se succèdent. Les saisons de la vie, j'avais fait un message là-dessus. L'enfance, il y a après la jeunesse, il y a l'âge du milieu, et puis il y a la vieillesse. Et à travers tout cela, on apprend. On a des accompagnants, on a des professeurs, on a des maîtres, on a tout un système qui va nous environner pour que nous ne restions pas à l'état d'enfance, mais que nous grandissions en sagesse, que nous grandissions en vraie connaissance et dans bien des choses. D'ailleurs, sur le plan physique, voilà, hein, la grande différence, c'est que il y a naturellement, eh bien, tout un processus là, entre un enfant, entre un jeune homme, une jeune fille, et puis l'âge mûr, et puis la vieillesse. Ça fait partie justement du processus. Et dans cette existence, il y a un début, il y a une fin. Oui, il y a un début, il y a une fin. Ce qu'on appelle la naissance, et puis ce qu'on appelle tout simplement bien la mort. Et comme nous avons été conçus dans la mûre, normalement, entre un papa et une maman, un père et une mère, eh bien l'amour, à ce moment-là, est orienté dans 3 directions. Après cette vie pré-organique dont nous avons parlé, il y a la vie organique. Et cette vie organique n'est pas départie d'amour non plus. Il y a d'abord l'amour de Dieu. Toujours, hein, la règle de 3. Il y a l'amour de soi, et il y a l'amour des autres. Et vous savez que son contraire s'appelle le péché. Parce qu'à l'égard de Dieu, ça s'appelle de l'incrédulité. ou de la révolte. À l'égard de soi-même, ça s'appelle l'ego, l'égoïsme, l'égoïsme roi. Et puis, à l'égard des autres, ça s'appelle le mépris et tout ce que vous voudrez, ou la haine, toutes sortes de choses. Or, la règle d'or de l'évangile, je la rappelle, elle vient de la bouche de Jésus, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ton prochain, quatrième, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Jésus qui nous l'enseigne. Et il dit que c'est le plus grand de tous les commandements qui n'ait jamais été donné. Vous en souvenez, hein, ça. La vie ici-bas offre l'ultime rencontre qui prépare l'homme à son éternité dans la dimension céleste. Ouais. Ce que nous sommes aujourd'hui. Nous pouvons nous poser mille et une questions, comme l'embryon pouvait se poser les questions. Pourquoi ceci, pourquoi cela? La vie sur la terre est faite de pourquoi? Seigneur, je ne comprends pas pourquoi. Je ne saisis pas pourquoi tu me fais passer par là et ceci et cela, bien que nous avons cette belle parole de l'apôtre Paul qui nous dit dans Romains chapitre 8 et verset 28, « Or toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, de ceux qui aiment Dieu. » C'est toujours le problème de l'amour, c'est toujours la règle de l'amour. Si j'aime Dieu, alors à ce moment-là, je vais avoir des pourquoi. Mais je remets la réponse. Je remets les solutions à mon Dieu parce que il m'a appelé dans un plan. Et il y a un plan pour moi. Alors, ce que nous sommes aujourd'hui, eh bien, ça prépare la rencontre avec Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ouais. C'est pour ça que nous faisons de l'évangélisation. C'est pour ça que vous rendez témoignage. Et faire de l'évangélisation et rendre témoignage, il faut le faire dans un esprit d'amour. Et dans je ne sais quelle étrangeté religieuse de vouloir condamner les gens. On n'est pas venu pour les condamner, on est venu pour leur faire connaître qu'il y a un Dieu qui aime. Un Dieu qui aime et qui sauve. Voilà. Tout est environné de cet amour. Et c'est pas un amour béat, hein. Il est réaliste. Il est plein d'intelligence. Nous préparons notre éternité et nous préparons notre dimension céleste. Parce que le contraire, c'est la terre. Et nous sommes encore sur la terre. Soupirons après le renouvellement de toutes choses, après avoir peut-être souffert. Ça arrive. Et de dire, eh bien Seigneur, je sais qu'il existe un paradis. Je sais qu'il existe non pas une autre terre, mais qu'il existe un ciel, où là, comme nous dit le livre de l'Apocalypse, toute l'âme sera essuyée des yeux des hommes. Il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la guerre, il n'y aura plus les injustices. J'aspire, Seigneur, je désire, c'est pas que je veux partir plus tôt, mais je m'y prépare. Et tous mes pourquoi, je te les remets, je te les confie, parce que un jour, j'aurai la réponse à tout cela. Ouais. Pour l'instant, j'en suis pas encore là, mais j'aurai la réponse à tout cela. Dans ce monde, l'existence est organique, elle est matérielle et elle est morale. J'assiste sur le dernier mot, le dernier adjectif. Elle est morale, matérielle, organique, morale. Et nous en arrivons à la troisième phase. La troisième phase, eh bien, puisque nous sommes sur cette terre, c'est une préparation. Eh oui, c'est une préparation. Je relis Nicodème. Un christianisme où il n'est question que de l'âme et d'une morale, ce n'est pas le christianisme. Le christianisme, c'est une annonce qu'il faut se préparer à rentrer dans une autre dimension, mais avec une nouvelle naissance. C'est-à-dire la dimension de l'esprit, préorganique, organique et spirituel. Alors, je le relis. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ah oui, on avait déjà connu une première naissance, hein, vous vous souvenez? Non, vous en souvenez pas, mais c'est pas grave, on est là. Alors, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, y aurait-il encore quelque chose? Beaucoup de gens ignorent qu'il y a le royaume de Dieu qui existe, qu'il y a une troisième dimension, La règle de trois. Nicodème lui répond, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nicodème, Nicodème, toi qui es un docteur de la loi, tu ne sais pas ces choses? Tu enseignes la loi de Dieu et les principes divins, toi Nicodème, le grand homme, l'érudit, le savant, tu ne sais pas ça? Nous sommes dans un monde où les gens ne savent pas. C'est pourquoi il nous faut confesser Jésus et rendre témoignage au royaume de Dieu et à l'évangile. Ils ne savent pas ça. Ils se sont arrêtés à la deuxième phase. Mangeons et buvons parce que demain nous mourrons. C'est faux. Enfin, c'est vrai, mais c'est faux. Il manque un élément. Alors, comment un homme peut-il naître de quand il est vieux? Waouh, c'est dur, hein, ça. Sur le plan humain, c'est difficile. Et il pose la question, mais qui est une question d'une... Enfin, j'ai du respect pour Nicodème, mais Nicodème, comment tu peux poser des questions comme ça? Comment tu n'as pas réfléchi? Comment tu ne peux pas avoir l'intelligence de comprendre qu'il y a autre chose? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alors, on peut comprendre que quand on a une heure où on vient, quand on vient de sortir du sein de notre mère, d'accord, hein, il y avait déjà pas beaucoup de place. Mais quand on a 70 ans, alors là, je peux vous dire que, surtout que maman, elle est morte depuis longtemps, hein, quand on a 80 ou 90 ans. Hein, et ce sont les genres de questions que les gens se posent. C'est illogique. C'est incompréhensible. Jésus lui répond. Et il répond avec une formule qui atteste la vérité. En vérité, en vérité. Il n'y a rien de plus vrai que cela. Je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Esprit. Ouais. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors ne t'étonne pas, Nicodème. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Ne vous étonnez pas, mes amis, ce matin, que je vous le dise en empruntant les paroles de Jésus, que je vous dise ceci, il faut que vous naissiez de nouveau. Est-ce que, bon, pour la plupart, je vous connais, hein, je sais que vous êtes nés de nouveau. Vous êtes nés de nouveau. Mais peut-être que quelqu'un n'est peut-être pas né de nouveau ce matin. Parce que la nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est le plus grand miracle que Dieu n'ait jamais fait, plus qu'un embryon, plus qu'un homme qui marche sur la terre. C'est un homme qui va marcher sur la terre pour marcher ensuite dans le ciel. Rentrer dans une autre dimension. Vous voulez comprendre? Alors je vais vous l'expliquer. Le vent, il souffle où il veut, hein, pour regarder la météo tous les jours. Vous savez les petites flèches sur la carte, hein? Alors il souffle où il veut, le vent, hein? Et tu en entends le bruit. C'est vrai que quelquefois ça fait du bruit la nuit, quelque part, hein. Mais tu ne sais d'où il va, d'où il vient et où il va. Eh bien, figurez-vous qu'il en est ainsi. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alors là, on va pas raisonner avec notre connaissance humaine, avec la science, avec les capacités cérébrales que Dieu nous a données, notre matière grise. On va raisonner d'une autre manière. Il en est de tout homme qui est né de l'esprit, Nicodème. Comment cela peut-il se faire, dira-t-il à Jésus? Ah oui, comment cela peut-il se faire? Eh bien, nous allons répondre à la question, comment cela peut-il se faire? Pour passer de la première phase à la deuxième, et de la deuxième, surtout parce qu'elle nous concerne, à la troisième. Comment cela peut-il se faire? Parce que là, c'est l'introduction dans les réalités spirituelles et éternelles. Comme nous avons connu une première naissance qui nous a fait passer de cette petite chose que nous étions dans ce que nous sommes devenus. Vous vous rendez compte que nous étions qu'une petite cellule, même pas visible à l'œil, et que nous sommes devenus des géants. Quand vous voyez un petit bébé, par exemple, il est gros comme ça, tout petit, hein. Principe, hein, ils sont comme ça, hein. Puis quand vous voyez des gens qui font 1m90 et puis qui pèsent 120 kilos, etc., dites donc, il y a de la croissance, hein. Eh ben, nous sommes en train de préparer les choses. Vous savez que nous sommes en train de préparer les choses aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais de la parole de Dieu? Qu'est-ce que je fais de Dieu? Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'offre pour que ma foi et ma piété se développent? Je veux rester un petit maigrichon en disant, non, moi ça m'intéresse pas, je préfère faire autre chose. Ou alors, je vais prendre la parole de Dieu, je vais me mettre comme Marie au pied de Jésus et je vais boire ses paroles et je vais grandir. Je vais me développer. Seigneur, donne-moi faim et soif de ta parole. Donne-moi d'aimer ta présence. Seigneur, donne-moi toute cette action du Saint-Esprit pour que je devienne à l'intérieur de moi-même. Parce que si mon corps se dégrade, ma vie intérieure, eh bien là, elle se développe pour revêtir cette condition pour l'autre côté. Seigneur, je lutte contre le péché encore, même bien que je sois chrétien. Mais Seigneur, j'ai entendu dire qu'il y avait une sanctification. Et si il y a une sanctification, c'est toi qui vas m'aider par le Saint-Esprit à me laisser faire, à me laisser changer, pour que je sois préparé et que je ressemble, que je puisse avoir, être à la ressemblance de l'image de Christ. Moi, je voudrais vous dire ce matin que vous ne perdez pas votre temps. Je voudrais vous dire que quand vous venez aux réunions de prière, non seulement vous ne perdez pas votre temps pour vous, mais vous êtes en train de préparer la naissance de d'autres personnes dans la prière. Lorsque vous venez dans une réunion d'évangélisation, vous êtes là pour chanter la gloire du Seigneur, pour rendre témoignage de votre présence, voire plus. À ce moment-là, vous ne perdez pas votre temps. On n'est pas appelé à être des bigots. On n'est pas appelé à être là des gens qui se refermons pour pas avoir l'image du monde parce que ça nous effraie, parce que ça nous fait peur, et que ce serait véritablement, eh bien là, une carapace que nous prendrions sur nous-mêmes pour dire, eh bien maintenant c'est fini, c'est terminé, j'attends le moment. Non. Nous devons exploser de joie, de paix, de bonheur pour le communiquer aux autres. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Et nous ne perdons pas notre temps. Plus je m'approche du Seigneur, plus j'ai faim de sa parole, plus j'ai envie de lui, mais je grandis. Et je me prépare pour de l'autre côté. On n'est pas sauvé par les œuvres ou les bonnes œuvres, on est sauvé par la foi. Et c'est parce que j'ai la foi que je vais laisser véritablement l'œuvre de Jésus se faire en moi. De plus en plus, vous ne perdez pas votre temps, vous êtes en train de préparer. Que nous n'arrivions pas boiteux, que nous n'arrivions pas là manchots de l'autre côté ou aveugles, sur le plan spirituel. Notre venue dans ce monde s'est fait par le truchement d'une mère que l'on appelle maman et une mère charnelle. Mais le salut est le fruit de l'amour parfait de Dieu, et cette foi, écoutez bien, cette foi, ce n'est plus une mère mais un père qui donne son enfant pour que nous soyons sauvés. Vous comprenez ce que je veux dire ? Jean 3,7, car Dieu a tant aimé le monde, ce monde qu'il a créé, qu'il a donné son Fils unique, son enfant, afin que quiconque ne périsse point, afin qu'il croie et que personne ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle par la foi. C'est un père aujourd'hui. Nous sommes venus dans ce monde par une mère et nous allons rentrer dans le ciel par un père. Jésus nous a dit, notre Père qui es aux cieux. C'est pas Marie qui nous sauve. C'est Jésus. Et nous allons rentrer dans une vie de gloire. Autant cette vie-là, une vie d'humiliation, autant nous allons rentrer dans une vie de gloire qui n'aura pas de fin parce qu'elle sera plus terrestre, elle sera céleste. Alors le processus, je le rappelle ce matin brièvement. Prise de conscience et reconnaître l'état de perdition dans lequel nous sommes. C'est nécessaire, indispensable. Nous avons passé aux aveux devant Dieu que l'on appelle la repentance. Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ta créature. Mais cette créature souillée qui était le fils prodigue, il est devenu deux fois plus un fils après, d'accord ? C'est de demander pardon à Dieu. Seigneur, tu pardonnes mes temps de folie, mes temps d'ignorance, mes temps de révolte. Demandez pardon. Et après, il y a un choix personnel, puisque je vous ai dit que la vie, c'était l'heure du choix, c'était l'état de choix, un choix que l'on appelle la conversion. Maintenant, Seigneur, je ne veux plus vivre pour moi-même. Je ne veux pas vivre pour le monde. Je veux vivre pour toi, Seigneur. Tu es mon sauveur. Tu es mon roi. La réponse de Dieu, c'est une nouvelle naissance. Il va nous prendre et il va nous transformer dans la mesure où nous voulons. Et c'est progressif, hein, c'est pas, ça se fait pas comme ça, hein. Après, j'ai entendu dire qu'il y avait une régénérescence après. Processus de la nouvelle naissance, une régénérescence. L'arbre qui était mort va revivre, il va être greffé sur la personne de Jésus et il va porter du fruit, du bon fruit, régénérescence. C'est une régénérescence morale, une régénérescence spirituelle, c'est progressif. Et après, nous en arrivons à la troisième fois, c'est la résurrection. Ressuscité en Christ. Ça va, vous suivez? Ben, ça pour l'air. Allez, résurrection. D'accord? Non, mais je vois que vous êtes pensif, hein. Ben, vous connaissez le processus? Vous êtes dedans? Je vous apprends rien. Et là, le troisième point, c'est celui que nous allons relire. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Nous étions morts, mais nous sommes rendus vivants maintenant, par la foi en Jésus-Christ. Nous étions morts. Si nous n'avions pas rencontré Jésus, sans passer par la nouvelle naissance, eh bien nous serions passés de la vie à la mort, et aujourd'hui nous sommes passés de la mort dans nos péchés à la vie. Dans la nature, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'il y a une résurrection permanente. Vous avez vu, les feuilles, elles sont toutes tombées, là, nous sommes au mois de décembre, elles sont toutes tombées. Dites-moi, je m'inquiète vraiment, parce qu'il paraît que le 21 décembre, il va y avoir la fin du monde. Wow! Moi, je voudrais vous dire une bonne nouvelle. C'est qu'on va passer le 21 décembre, et puis au mois de février-mars, la Terre va renaître. Ah oui, et on appelle ça le printemps. Il nous est dit que les perfections et sa divinité se voient comme à l'œil nu pour celui qui sait les observer et les considérer. Merci Seigneur. Alors, il en est de la résurrection. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. On sait ce que ça veut dire. Il ressuscite plein de force. De l'autre côté, vous verrez, plus d'arthrose. Oh, ça va être formidable, hein. Extraordinaire. Il est semé corps naturel et il ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam, vous souvenez? Oui, il est devenu une âme vivante par le souffle de Dieu dans ses narines. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous savez comment il s'appelle, le dernier Adam? C'est Christ, hein? Et moi, je suis avec Christ. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tels sont les terrestres. Tels aussi sont les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons l'image du céleste. Imaginez-vous. Ce que ça va être, mes frères et sœurs? On dit déjà que parfois nous sommes des anges. Ouh. Les anges sont les anges. Les hommes sauvés et ressuscités seront autrement que les anges. Au-dessus des anges. Eh oui. Eh oui, parce que nous serons passés par l'aventure humaine. Avec cette perdition, avec cette misère, cette mort spirituelle. Mais de cette mort spirituelle, Dieu en a fait sortir la vie spirituelle et l'éternité. Quel parcours, quelle aventure, quelle règle de trois. On pourrait dire cela comme ça si l'on veut. Eh oui, c'est quelque chose. Toute l'explication est dans ces contrastes évidents. D'un état à un autre, et c'est ascensionnel. C'est-à-dire de gloire en gloire. C'est ce qu'il nous est dit, hein. C'est Paul qui l'écrit, hein. De gloire en gloire. Alors on peut pas dire que sur la terre c'est la gloire, hein. Mais néanmoins on prépare la gloire. Alors que ceux qui ne croient pas, c'est dans un état descendant. D'ailleurs ils disent bien, c'est la terre, hein. Vous savez ce fameux jardin du repos, hein. Les gens disent, ben on nous met en terre. Ben nous, les chrétiens, nous disons que nous allons aller au ciel, d'accord? On déposera l'enveloppe, mais derrière, il y aura eu le passage par le corps, la dimension de l'âme et la dimension de l'esprit, parce que l'esprit a été rendu vivant par la foi en Christ. Alors, d'un état à un autre, du moindre au plus grand, de l'insignifiant au glorieux, de la souillure à la sainteté, de la fragilité à la force, du mortel à l'éternel, de l'humain au divin, bien que nous ne serons jamais Dieu. Attention, hein. On n'est pas dans la doctrine du Nouvel Âge, hein. D'accord? Mais de l'humain, on sera rentré dans une troisième dimension. Notre naissance, ça sera passé de ce monde dans l'autre, et là, nos yeux verront, nous comprendrons toutes choses. Et l'espace sera encore beaucoup plus grand, parce que déjà entre là le sein maternel, cette terre qui est déjà quand même si vaste pour la visiter, et de l'autre côté, ça sera l'immensité de l'univers. On a du mal à se rendre compte, hein. Ouais. C'est quelque chose d'inimaginable que tes œuvres sont merveilleuses, et ça dépasse ma compréhension. Seigneur, je ne comprends pas. Comme je n'ai pas pu comprendre quand j'étais petite forme inerte, informe, mais je vais de plus en plus. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Je termine par une dernière petite explication, parce qu'il y a tout un processus. Comment entendons-nous parler de Dieu et de son évangile? Comment l'entendons, nous? Comment recevons-nous cette parole? Tout dépend comment chacun perçoit par son intelligence naturelle ou par son entendement spirituel. Nous sommes appelés à percevoir les choses par l'Esprit de Dieu. Attention, hein? L'homme religieux ne perçoit qu'avec ses sens humains, son naturel, avec ses dimensions morales qu'il a reçues, mais pas plus loin. L'homme religieux, c'est l'âme, ça ne va pas plus loin, il manque encore une dimension, et il nous faut naître de nouveau. Vous savez, la voix humaine, c'est simplement une dernière petite image, la voix humaine est entendue différemment quand je parle, quand vous parlez. Je prends ce texte, écoutez bien, une bête sauvage et à l'état naturel ne perçoit qu'un son. Souvent elle va fuir ou elle va vous attaquer parce qu'elle est sauvage. Elle est à l'état naturel au plus degré primaire, réaction primaire. L'animal qui est dressé ou domestiqué, quand on lui parle, va découvrir un sens parce qu'il a appris. Il a été conduit à pouvoir, un cheval ou un chien, quand on lui donne un ordre, il va comprendre un sens. D'accord. Il y a une intelligence aussi primaire. L'homme qui écoute, quand il va écouter un autre homme, va y discerner une pensée, encore une autre dimension, qui va susciter une réflexion. C'est tout un état, vous comprenez ? Tout un développement. Nous, ce que nous entendons, nous voulons l'entendre par l'Esprit de Dieu, parce que Dieu parle par son Esprit. Nous ne voulons pas que ça reste un son. Nous ne voulons pas seulement nous arrêter à un sens. Oui, Dieu existe. Mais nous voulons que ça suscite pour nous une réflexion, parce que c'est une pensée. C'est pas une pensée de la terre, c'est une pensée du ciel, c'est une pensée divine qui interpelle les hommes pour les amener à comprendre, à réaliser, à s'engager, à aller beaucoup plus loin. Dieu possède seul l'immortalité, et nous sommes appelés à rentrer dans cette dimension de l'immortalité. Dieu, quand il nous a créés, c'est que nous puissions partager son immortalité. Alors il dispose de cette immortalité comme un don, et il l'accorde souverainement à ses créatures, qui savent l'entendre, entendre sa voix et croire à la véracité de cette voix qui nous est adressée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que Dieu nous bénisse ce matin, que Dieu nous donne sa grâce, que Dieu remplisse nos cœurs Et frères et sœurs, réjouissons-nous. Bénissons le Seigneur, glorifions-le, exaltons son nom, magnifions cette œuvre de salut à travers la personne de Christ. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier. Parce que nous croyons, Père éternel, que tu nous as fait un bref rappel ce matin de ce que nous sommes, ce pourquoi nous avons été créés, d'où nous venons, quelles sont nos origines. Et puis, cette vie, Seigneur, dans laquelle nous sommes renfermés, qui est le stade dans lequel nous sommes aujourd'hui? Et puis, Seigneur, tout cela, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, il y a une multitude de pourquoi dans nos pensées, dans nos cœurs. Mais Seigneur, tu nous as montré, Père éternel, que nous allons, nous marchons et nous progressons, Seigneur, si nous le voulons, eh bien, d'un état à un autre. Et de cet état, nous pouvons, Seigneur, si nous ouvrons notre cœur à la grâce, que nous faisons foi à tes paroles, eh bien, Seigneur, que ça ne s'arrête pas, Seigneur, véritablement, comme un enfant qui est mort-né au sortir du sein de sa mère. Oui, Seigneur. Et que la vie, Seigneur, elle n'est pas là pour s'arrêter avec la mort, mais que quelque part tu nous as montré, Seigneur, qu'il y avait quelque chose de plus. Et que de cette vie, Seigneur, même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, ça c'est ce que les chrétiens vont vivre, eh bien, Seigneur, nous allons rentrer dans la dimension de l'éternité. Et là, nous ne pouvons pas encore dire ce que c'est, mais nous y rentrerons. Nous pourrons, eh bien, véritablement, Seigneur, connaître la vraie joie, la vraie paix, le vrai bonheur, et cela pour l'éternité. Seigneur, chaque étape reste un mystère, mais Seigneur, si nous voulons nous laisser conduire, nous arriverons jusqu'au bout et nous glorifierons le Dieu créateur, le Dieu sauveur, le Dieu rédempteur, le Dieu, en effet, Seigneur, créateur du ciel et de l'univers. Et pour nous, Seigneur, en effet, Père éternel, notre patrie, c'est pas la terre. Notre patrie, c'est le ciel, l'éternité, le monde céleste. Merci Jésus. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.